Vous êtes... On l'a loupé, alors on le fait maintenant, Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont consultables, et même podcastables, et même enregistrables, et même, je sais pas, plein d'autres trucs à tous les coups, sur le site radioalpa.com, à la page Radico Libre. Oh là là, je vais y arriver. Ça commence fort ou ça commence mal, je ne sais pas. Advienne que pourra. Eh bien... De quoi aurions-nous pu vous parler cette semaine? On aurait pu vous parler du Rojava qui subit toujours les agressions turques et des milices de l'armée nationale syrienne qui est en fait téléguidée par la Turquie. Pour en savoir plus, je vous conseille une BD documentaire qui a déjà presque 10 ans. Pour vous dire que le problème perdure, une BD documentaire de Zero Calcar, un dessinateur italien. Oui, Zero Calcar, ça commence pas comme zéro, puis après c'est C-A-L-C-A-R-E. Un dessinateur italien, et même romain, oui, romain avant d'être italien. Une BD documentaire intitulée Kobané Calling, Kobané étant une poche kurde au nord de la Syrie qui a résisté à Daesh avant d'être prise et reprise, et qui résiste à la Turquie qui bombarde régulièrement sa ville et la région. Vous pouvez aussi vous renseigner sur cette guerre oubliée par nos médias en allant sur le site kurdistan-o-féminin.fr. Alors au-delà des informations que vous trouverez sur kurdistan-o-féminin.fr, vous trouverez aussi en allant tout en bas de la page, à gauche, le mot source. Et si vous cliquez dessus, une dizaine d'adresses de sites apparaît qui ravira notamment les anglophones. On aurait pu vous parler des flics en colère de ne pas pouvoir impunément appliquer la peine de mort pour conduite sans permis dans un pays où la peine de mort n'existe plus. Même pour conduite sans permis. Dans toute la France, mercredi 5 mars, des policiers se sont rassemblés devant les commissariats pour dire qu'ils sont tous Florian, du prénom du meurtrier présumé qui a mis une balle dans la tête de Naël Merzouk en juin 2023 lors d'un contrôle de police. Au Mans, ils étaient une trentaine à avoir répondu à l'appel du syndicat Alliance. Le syndicat Alliance, dont on sait depuis 2019 et la manifestation des policiers que le problème, bah, c'est la justice et l'état de droit. Oui, direct, hein, en direct. En juillet 2023, après le meurtre de Naël Merzouk, associé à l'UNSA Police, Alliance avait produit un communiqué de presse où les deux syndicats écrivent que l'heure n'est plus à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Ils ont quand même mis des guillemets à nuisibles en parlant de minorités violentes. Et de fait, je crois qu'ils ne parlaient pas des flics habitués aux violences policières. La suite au prochain numéro. On aurait pu vous parler des 800 milliards pour la défense, d'un plan de 1000 milliards pour la défense, d'une augmentation du PIB consacrée à la production et à l'achat d'armes, en gros pour la défense, à la présence de militaires qui s'occupent de quoi? De la défense sur les plateaux télé, à la justification des réformes libérales par le PT de la REP lui-même et tout un ensemble de petits soldats de la Macronie qui n'ira pas au front, bien sûr. Justification des réformes libérales par le besoin de financer la défense. Bon, bah tout ça, en fait, c'est pour la guerre. Oui, toute cette petite musique qui s'installe dans les médias, très complaisant avec le spectacle militaire qui fait de belles images et de belles histoires. Alors, souvenons-nous que les pacifistes existent, souvenons-nous que l'immense majorité de la population ne souhaite pas la guerre et que malgré... des sondages qui semblent, je ne sais pas d'où ils sortent, des sondages qui nous indiquent que près de 40% des jeunes Français seraient d'accord pour aller mourir pour la patrie. Ouais, je sais pas qui est-ce qu'ils ont interrogé, sans doute des jeunes qui sont allés au SNU. Hein. Un collectif intitulé « Guerre à la guerre » existe aussi et qui s'organise contre le Salon du Bourget qui aura lieu en juin prochain. Bah, d'ici là, toute initiative contre la petite musique qui veut nous emmener vers je ne sais pas trop quoi et surtout quelque chose qui, au lieu de s'occuper des difficultés que nous avons avec le climat, on va produire des armes pour se foutre sur la gueule. Je crois qu'il y en a qui ont des petits problèmes de priorité. Donc contre toute cette petite musique, toute initiative et la bienvenue Les libéraux et la guerre, c'est une grande histoire d'amour. Et malheureusement, on en reparlera. On aurait pu vous parler également de la Grèce. La Grèce qui, encore cette semaine, a vu une grande partie de la population manifester, ben parce qu'ils ont des petits problèmes d'abord avec l'État, avec les gouvernants libéraux qui sont à la tête de l'État, et des petits problèmes également avec la destruction des services publics. Pas encore justifié par la guerre, mais bon, ils ont pas le même pété de la REP que nous, pas le même Premier ministre non plus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le blog de Yanis Yuluntas, blogi, B-L-O-G-I, yy.net, blogui.net. On aurait pu vous parler de tout ça, mais finalement, on a préféré, encore une fois, vous parler de la place de la bagnole dans nos vies. Ah bah ça va être gay encore. En octobre dernier, la MJC du Ronceret accueillait Ludovic Bu, qui travaille dans le secteur de la mobilité, qui fut conseiller municipal au Mans chez les Verts entre 2020 et 2024, pour qu'il présente son livre « Tout voiture » aux éditions de l'Échiquier, dans une collection qui s'appelle « On arrête tout et on réfléchit ». À cette occasion, nous l'avions interviewé, et dans les deux émissions précédentes, nous avons déjà compris que les bagnoles prennent de plus en plus de place, physiquement et dans nos imaginaires. On a compris aussi que la bagnole génère une organisation des espaces urbains et des espaces ruraux, une organisation qui sert principalement la bagnole. Alors que la bagnole est un moyen de locomotion qui pue, qui pollue et qui coûte cher. Ça aussi, on l'a appris lors des dernières émissions. Mais comme c'est un secteur industriel important dans nos sociétés articulées autour de l'économie capitaliste, bah, il faut continuer à acheter et à vendre des bagnoles. Continuer à acheter et à vendre des bagnoles, et ben cette histoire nous est relatée par l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire, qui travaille depuis 1992 sur la publicité et ses effets. Surconsommation, gaspillage d'énergie et de matières premières, pollution des esprits, etc. Voilà ce que fait la publicité. En octobre 2024, Résistance à l'agression publicitaire, RAP, publie un rapport intitulé « La publicité automobile à l'assaut de notre imaginaire », où l'on trouve une histoire de la conquête de nos imaginaires par les publicitaires et une analyse des publicités actuelles. Je cite « Afin d'examiner les principaux ressorts utilisés dans la publicité pour stimuler la demande et ainsi préserver la culture automobile, les membres de RAP ont analysé 137 publicités sur 2 ans issues de différents supports, affichage extérieur, réseaux sociaux, télévision et magazines. Il est important de noter qu'une publicité peut impliquer la combinaison de plusieurs ressorts. Cependant, pour illustrer aisément notre propos, nous choisirons de mettre en avant celui qui prédomine. » Et donc je vous laisse ce soin de retrouver ce rapport consultable et téléchargeable sur le site de l'association RAP, antipub.org, et vous cherchez le rapport. Et vous verrez que les ressorts en question, c'est régulièrement la sécurité, mais qu'on a aussi de la virilité, qu'on a de la liberté. Oui, enfermé dans une boîte, on est beaucoup plus libre, etc., etc. Donc, antipub.org, le site de RAP pour trouver ce rapport qui nous parle de la publicité automobile à l'assaut de nos imaginaires. Nos imaginaires sont imprégnés de bagnoles qui ont aussi un rôle au niveau géopolitique, notamment du fait de l'utilisation de carburants dérivés du pétrole. On écoute Ludovic Bu sur le sujet.
On voit que la voiture, l'automobile, a un impact très fort pour l'économie, que ce soit pour la construction, vous parliez tout à l'heure de 8 à 12% de la population active en France, la vente de ces voitures, donc justement la publicité, plusieurs milliards par an, mais vous parlez aussi de son impact sur la géopolitique, et notamment avec la géopolitique du pétrole. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Tous les pays occidentaux non producteurs de pétrole sont devenus dépendants des pays producteurs de pétrole. Or, il ne vous aura probablement pas échappé que les pays producteurs de pétrole, à l'exception de la Norvège et peut-être d'un ou deux autres, sont rarement des grandes démocraties qui respectent bien les droits de l'homme et tout ça. Et donc on est dans une logique où on est dépendant d'eux, pour le gaz aussi d'ailleurs, il n'y a pas que pour le pétrole, et on augmente cette dépendance, puisqu'on augmente la consommation que nous avons. Et il y a tout un paradoxe en fait qui est toujours pointé du doigt. Les gens disent « oui, mais chaque voiture consomme moins au kilomètre qu'il y a 20 ans ». Certes, mais comme on a multiplié par 7 leur nombre, la quantité de pétrole dont nous avons besoin, lui, il a été démultiplié. Et donc ça pose un problème. On l'a vu avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il ne fallait pas trop se fâcher quand même avec la Russie, tout en soutenant l'Ukraine, mais quand même, parce que le gaz et une partie du pétrole que nous consommons viennent de là. Et donc c'est tout de même embêtant que nos modes de déplacement aient un enjeu géostratégique.
Qui aille à l'encontre de ce qu'on peut promouvoir justement comme valeur.
Oui, oui, c'est exactement. Si on était une dictature qui ne respecte pas les droits de l'homme, bon, ben, on achèterait du pétrole à des dictatures qui ne respectent pas les droits de l'homme, on serait cohérent. Mais là, on est incohérent.
Ah, être cohérent. Bah oui, en effet, quand même, les Vladimir Poutine, Mohamed Ben Salman, Xi Jinping, Ali Khamenei, je vais y arriver, Ali Khamenei et compagnie ne sont pas les plus grands démocrates du monde. Et pourtant, avec leur production énergétique à base d'hydrocarbures, ils empêchent la critique, la réduisent à peau de chagrin. Heureusement, il y a la voiture propre, la voiture électrique. Bah oui! Bah si, j'ai entendu que c'était propre. Propre pour qui? Bah sûrement pour ceux qui en profitent. Seulement pour faire fonctionner une voiture électrique, comme un vélo électrique d'ailleurs, il faut des batteries. Et les batteries ne viennent pas non plus du coin. 75% des batteries sont produites en Asie, avec la Chine en tête. Pas un modèle démocratique que si l'on essaye de voir que la démocratie, c'est tout simplement le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. En Europe, il existe un champion, Northvolt, entreprise suédoise qui fait de la batterie en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, dans des usines géantes qui consomment énormément d'énergie et de matières premières. En novembre 2024, surendettée, la société Northvolt se met en faillite et son cofondateur, PDG de la boîte, démissionne. Bravo champion. La fabrication des batteries et du reste des bagnoles demande beaucoup de matières premières, qui sont autant de sujets de conflit dans les pays où les minerais sont extraits des sous-sols. Une fois que les bagnoles sont là, vendues et utilisées, elles occupent le terrain. Ouais, littéralement.
Ces voitures, il faut bien les mettre quelque part. Donc il y a un certain nombre d'infrastructures. Vous parliez tout à l'heure de 9 euros dépensés par la collectivité pour 1 euro dépensé par les particuliers. L'automobile, vous le dites dans votre livre, construit notre environnement.
L'artificialisation des sols liée non seulement aux infrastructures routières, mais aussi aux infrastructures de stockage des voitures, donc les parkings, elle est décuplée. Et ça génère des dépenses publiques. Ça fait partie des 9 euros, hein, c'est intégré à l'intérieur l'infrastructure. Mais ça veut dire que, alors que nous sommes face à un dérèglement climatique qui invite plutôt à ne surtout pas bitumiser, et même plutôt à débitumiser, le fait qu'on a absolument besoin d'infrastructures qui prennent en gros une voiture en circulation en ville, donc à une vitesse moyenne, c'est 25 mètres carrés au sol. Entre l'espace que prend la voiture, l'espace d'accélération et de décélération, et l'espace de manœuvre. C'est 25 mètres carrés au sol. Et donc à chaque fois que vous avez une voiture qui roule, vous avez 25 mètres carrés qui sont occupés par cette voiture. Et une place de stationnement, 10 mètres carrés. Il y a une discussion pour savoir si on ne va pas augmenter la norme des tailles de parking, parce que les voitures ayant grossi, bah, il faut les mettre en taille XXL et plus en XL. C'est 10 mètres carrés multipliés par le nombre de véhicules. On peut en faire des parcs, on peut en faire des terrasses, on peut en faire des trottoirs plus larges, on peut y planter des arbres, on peut faire tout un tas de choses qui seraient utiles pour l'adaptation au dérèglement climatique, alors qu'on fait plutôt l'inverse. Et ne parlons pas de l'artificialisation des sols liée à l'extension des zones commerciales. Au Mans, on a tout ce débat autour de Bénère. Bon, j'ai l'impression qu'enfin ce projet est en train de mourir de sa belle mort. Mais c'était un projet complètement fou d'artificialisation d'hectares pour mettre des parkings. Il y a encore des villes qui continuent à faire ce genre de choses.
De fait, vous disiez tout à l'heure que l'idée d'utiliser toujours sa voiture et d'en faire l'alpha et l'oméga de nos mobilités, ça empêchait aussi l'utilisation de l'espace public par d'autres sortes de mobilités.
Oui, il y a un facteur qui est très marquant, c'est que l'obésité augmente. Alors l'obésité physique, là pour le coup, pas celle des véhicules. L'obésité augmente au point qu'on est passé de 17% de la population en surpoids à 30% de la population en surpoids en une vingtaine d'années. Et parmi les gens en surpoids, les enfants sont les plus touchés. Et dans les causes que les pédiatres pointent du doigt comme raison expliquant pourquoi les enfants deviennent gros, voire obèses, il y a évidemment la malnutrition ou la malbouffe et le fait qu'ils aient des régimes déséquilibrés, mais il y a aussi le manque d'exercice physique. Et pourquoi y a-t-il un manque d'exercice physique? Tout simplement parce que les enfants ne peuvent plus jouer dehors, ou très difficilement. Il faut les amener dans des parcs, quand il y en a, parce qu'au Mans on est plutôt bien doté, mais il y a d'autres villes où c'est compliqué d'avoir des parcs. Et il faut donc les surveiller, il faut les accompagner, ce qui est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus contraignant qu'il y a 30 ou 40 ans, quand les enfants pouvaient jouer dans les rues parce qu'il y avait très peu de véhicules, ou il y a 50 ans. et que donc on pouvait avoir des enfants qui jouaient librement dans la rue sans que ça soit trop dangereux. Et quand on piétonnise ou quand on abaisse très largement la vitesse et le nombre de véhicules qui passent dans des zones dans lesquelles il peut y avoir des enfants, bah de fait, ils retrouvent une mobilité, de fait, ils retrouvent une activité physique. Ils peuvent jouer de nouveau à la corde à sauter, au ballon, à se courir après, à cache-cache, peu importe, mais en étant dehors. Et une des causes de ces problèmes de santé et d'obésité, c'est le fait qu'on ne peut plus aller dehors, parce que c'est devenu dangereux, en grande partie à cause des voitures.
Et quand vous parlez d'emmener les enfants au parc, on les emmène en voiture?
Dans les centres urbains, pas trop. Et après, effectivement, dès qu'on s'éloigne un petit peu. Mais surtout, on les emmène partout en voiture. C'est pas que au parc. Là aussi, il y a une question très genrée. Si vous regardez les mobilités des femmes entre 25 et 40 ans, un trajet sur 6 qu'elles parcourent, c'est un trajet d'accompagnement. Ça veut dire qu'elles accompagnent quelqu'un. Elles sont taxi, en fait. Un trajet sur 6. Et donc, elles accompagnent des enfants à une activité sportive, des personnes âgées à un rendez-vous médical ou à faire des courses, etc., etc. Et ça aussi, c'est un symptôme, parce que quand vous êtes âgé, vous devriez pouvoir marcher tranquillement, doucement, à votre rythme. Et donc, il faudrait pour ça que l'espace public le permette, qu'il y ait par exemple des bancs, qu'il y ait des trottoirs larges, qu'ils soient en bon état, dans lesquels il n'y ait pas des nids de poules, dans lesquels on risque de se faire une entorse. Que les enfants puissent aller à la salle de sport qui est à 500 mètres ou 1 km ou 1,5 km de chez eux, qu'on soit obligé de les y amener, c'est absurde. Mais c'est comme prendre sa voiture pour aller à la salle de sport. Il y a un truc sur lequel on va monter sur un vélo pour faire du vélo. Enfin, faites du vélo dans la rue, faites du vélo dans la forêt, faites du vélo dans les parcs. Mais c'est absurde d'aller dans une salle de sport pour faire du vélo. Enfin, mais sauf que faire du vélo en extérieur est devenu, pour une grande part de la population, désagréable. Parce que dangereux. Ou parce que perçu comme dangereux. Et donc, toute la question, elle est vraiment une question de rééquilibrer les usages de l'espace public pour que tout le monde puisse en profiter, pas seulement ceux qui sont en âge et en capacité de conduire un véhicule.
Laisser de la place aux autres. Si les automobilistes dans leur bagnole pouvaient laisser de la place aux autres, puisque l'incongruité de la salle de sport n'est plus à démontrer, hein, se déplacer pour faire une activité physique dans un lieu précis en utilisant parfois sa bagnole. De même que le paradoxe du déplacement en voiture pour transporter un humain vers un lieu de nature où il pourra faire par exemple du vélo ou de la marche. Si c'est pas incongru, je ne sais pas. La place prise par les bagnoles dans nos milieux de vie a été analysée par un certain Lewis Mumford dans un ouvrage intitulé « La cité à travers l'histoire ». Les derniers chapitres concernent l'époque contemporaine, soit les années 1960 pour l'auteur. États-Unien, il constate les méfaits de l'étalement urbain à l'époque, l'extension sans fond des banlieues qui éloignent toujours plus les habitants de leur lieu d'exploitation, de leur lieu de loisirs, etc. Et donc du recours obligatoire à un véhicule individuel motorisé. Je cite. Les choses en sont venues à ce point que tous les services urbains dépendent étroitement de la circulation automobile. Celle-ci prend à la fois aux habitants des banlieues le temps et l'espace. Il en résulte des sentiments de frustration et des accès de mauvaise humeur, car sous le beau prétexte d'augmenter la vitesse de circulation, on ne parvient en fait qu'à la ralentir et à rendre les rencontres plus difficiles en dispersant dans un vaste secteur régional les fragments épars de la cité. À la base de cet échec de la technologie moderne, on retrouve la croyance fort contestable en la valeur intrinsèque de la puissance et de la vitesse qui conduit chacun à penser que le dernier modèle de voiture rapide doit remplacer tous les autres moyens de transport. La notion de vitesse devrait être en effet subordonné au but à atteindre. Si l'on entend se promener en admirant un site urbain et en discutant, la vitesse de 5 km/h est plus que suffisante. Et de fait, c'est la vitesse de la marche pour un adulte. Mais lorsqu'un chirurgien est appelé auprès d'un malade qui se trouve à une distance de 1500 km, une vitesse de 500 km/h risque d'être trop lente. Nos spécialistes des transports paraissent incapables de reconnaître qu'un moyen de locomotion unique, quelle que soit théoriquement sa rapidité, ne saurait suffire et qu'il est indispensable de prévoir une très grande variété de moyens au réseau et aux vitesses variables, s'adaptant ainsi à différents objectifs. Le moyen le plus rapide de transporter 100 000 personnes à une distance inférieure à 800 mètres est de leur permettre de parcourir le trajet à pied. Et le moyen le plus lent serait de les faire monter dans des voitures individuelles. Si l'on interdisait toutes les rues de Boston à la circulation des véhicules, les habitants pourraient se rassembler sur la place publique en moins d'une heure. En automobile, il leur faudrait plusieurs heures et encore. La plupart seraient contraints d'abandonner leur véhicule, impossible à garer pour pouvoir arriver à destination. Nos ingénieurs en transport et nos autorités municipales, hypnotisés par la popularité de la voiture individuelle, se sentant dans l'obligation d'aider au développement de General Motors, même si un chaos général en résulte, ont participé à une conspiration ouverte pour démanteler toutes les formes de transport nécessaires à un bon fonctionnement et ont réduit nos possibilités à cette voiture individuelle et à l'avion. Ils ont également développé les chemins de fer, mais répétant les erreurs de leurs prédécesseurs, ils ont entassé dans les villes terminus une population que la voiture individuelle ne peut transporter, à moins de démolir la cité pour permettre son déplacement et son stationnement. Nos spécialistes et administrateurs, s'ils avaient été compétents, n'auraient pas manqué de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les méthodes les plus efficaces de transport en commun, conservant ainsi l'intégrité de la cité et d'autres formes plus rapides de déplacement. L'articulation concertée de la circulation pédestre, des transports de masse, du réseau des rues, des autoroutes, des avenues et des aérodromes, est seul capable de satisfaire à tous les besoins de la communauté des hommes modernes. Nous n'avons pas d'autre choix. En favorisant les transports routiers au détriment des voies ferrées pour de longues distances, nous avons assuré le remplacement d'un service efficace et sûr par un autre plus dangereux et beaucoup moins efficace. La condition indispensable à l'amélioration du système autoroutier est que la plus grande partie des transports de marchandises s'effectue par voie ferrée. On en est loin. Il n'y a pas d'autre moyen d'améliorer les conditions de circulation des voitures privées. De même, si nous voulons que les autoroutes aménagées autour des grandes villes remplissent leurs offices, il nous faut conserver et améliorer le réseau de transport public au lieu de le supprimer. Le seul moyen possible de lutter contre les encombrements urbains est de relier les zones industrielles et commerciales aux quartiers résidentiels par des réseaux de transport multiples, de façon que le personnel puisse se rendre au travail soit à pied, soit en utilisant la bicyclette, l'autobus, la voie ferrée. Si tous les moyens de transport sont axés sur les autoroutes, celles-ci, surchargées, ne permettent plus l'écoulement de la circulation. Et si l'on multiplie les grandes artères de communication, c'est la structure urbaine elle-même même qui se trouvera profondément atteinte et divisée. Dans les banlieues, cette division spatiale conduit à une spécialisation extrême des fonctions. Quartiers résidentiels privés de magasins, centres commerciaux éloignés des usines, usines éloignées des restaurants. En se refusant au mode de coopération complexe de la cité, la banlieue retrouve les vices originels de la surspécialisation et du contrôle autoritaire. Il est indispensable, cela va sans dire, que les projets d'urbanisme tiennent compte de la circulation automobile. Mais il n'est nullement nécessaire que les voitures soient autorisées à pénétrer et à stationner librement dans toutes les parties de la cité, au plus grand détriment de toutes les autres activités, ni que l'ensemble des modes de vie soit organisé en fonction de l'usage d'une voiture personnelle, ni encore que les structures mêmes de la cité puissent être remises en question par la sortie des modèles aux dimensions de plus en plus imposantes. Les temps seraient venus, au contraire, de distinguer entre l'utilisation urbaine et le voyage à longue distance. Une voiture spacieuse dans laquelle toute la famille s'installe à l'aise convient parfaitement à ce dernier. Mais les voitures de ce type ne devraient pas être autorisées à circuler à l'intérieur même de la cité. On pourrait leur imposer de lourdes taxes de stationnement tout en décourageant la production et la vente de petites, la production et la vente de petites voitures mues électriquement qui seraient utilisées en complément et non en remplacement des transports publics dans les limites de la cité. Vitesse modérée, discrétion, encombrement réduit, maniabilité, telles doivent être les caractéristiques de la voiture en ville. Waouh ! Eh bien, par exemple, la capitale de la Slovénie, Ljubljana, est devenue à partir de 2007 une ville sans voiture, petit à petit, encerclée de parkings géants pour accueillir les automobilistes qui veulent se rendre au centre-ville. Ils prennent alors les transports en commun, gratuits, un vélo ou ils marchent. On peut se dire qu'il faut du temps pour pouvoir se déplacer autrement qu'en bagnole. C'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Ludovic Bu, l'auteur de « Tout voiture ».
On pourrait dire qu'il faut avoir le temps d'utiliser aussi d'autres moyens comme la marche, puisqu'on nous présente la voiture comme étant un moyen efficace d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Est-ce que c'est vraiment le cas en ville ?
Ni en ville, ni à la campagne. En fait, le problème majeur, c'est que depuis la révolution industrielle, ça fait quand même 2 siècles et quelques, on a des enquêtes qui montrent qu'on consacre 1 heure par jour, en moyenne, à nos déplacements. Mais sauf qu'il y a 150 ans, l'heure en question, c'était pour parcourir 4 km à pied. Parce qu'on marche à 4 km/h à peu près, enfin un adulte marche à 4 km/h. Aujourd'hui, c'est pour parcourir 40 km en moyenne. Et donc là, il faut aller vite. Et là encore, on parlait du système automobile, on a aménagé le territoire de sorte à ce que plein de choses ne soient plus accessibles autrement qu'en automobile. Si vous habitez à la campagne, vous n'avez quasiment plus de commerce, d'école, de services de santé, de services publics, etc. Donc si vous voulez avoir accès à ça, alors il faut aller loin, donc il faut une voiture. Mais il y a des initiatives qui sont prises à plein d'endroits, en France ou dans d'autres pays, pour recréer des proximités et permettre qu'on n'ait plus besoin de la voiture, ou en tout cas beaucoup moins besoin de la voiture, pour trouver des réponses aux mêmes besoins. sans que ça change rien à vos besoins. Les besoins sont les mêmes. Je prends un exemple, le bus des services publics, qui, au lieu de dire venez à la préfecture, venez à la CPAM, venez à France Travail, venez à... Eh bien, on va mettre tout ça dans un bus, et une fois par mois, il va passer dans chacun des villages. Et on va annoncer que le premier lundi du mois, il est dans le village A, le premier mardi du mois, il est dans le village B. Et vous avez 80% des démarches qui sont faisables dans ce bus. Donc, de fait, vous pouvez y aller à pied, au lieu d'être obligé d'aller à la ville avec votre voiture. Et donc, ce genre de solution règle le problème du temps, parce qu'en fait, vous allez consacrer le même temps, mais pour aller à côté de chez vous, au lieu d'aller à 30 km. Le temps est une fausse excuse, en réalité. Parce qu'on pense gagner du temps, et en réalité, les études montrent que, ben non, en fait, on se déplace toujours sur la même temporalité.
Gagner du temps est bien l'un des leitmotifs de l'utilisation de la bagnole, alors que, comme nous l'avons déjà vu, nous sommes des mammifères terrestres plus volontaires pour glander que pour s'agiter à produire du profit. C'est bien parce qu'on y est obligé par quelques-uns. Ce serait pas mal de s'en débarrasser de ces gens, en tout cas de leurs obligations. Eh ben, à propos du temps de déplacement, à propos des solutions à trouver, on verra ça, parce qu'on n'est pas en avance la prochaine fois. Que vous dire? Eh bien que le samedi 8 mars, comme d'habitude, et ça commence à être une habitude qui nous pèse, à 14h place de la République, manifestation contre les interventions multiples de l'armée israélienne un petit peu partout. Hein. D'ailleurs, à ce propos, enfin, une chaîne d'État française s'est un petit peu intéressée à Netanyahou et à toutes les casseroles qu'il trimballe. Ça s'appelle Complément d'enquête, c'était sur France 2. Allez voir, c'est édifiant. J'espère que Yael Braun-Pivet et tous ceux qui ont soutenu Israël de manière inconditionnel, a bien regardé l'émission en question. Nouvel avis à la population, le centre social autogéré L'Allumette a toujours besoin de sous, il est toujours situé 7 rue de la Marne, et cet après-midi, puisque c'est pour les auditeurs du direct, le samedi c'est ouvert de 14h à 18h, eh bien ils font accueil pour les petits qui viendraient pas à la manifestation féministe de 15h30 place de la République. Et du coup, bah, c'est accueil militant, dans le sens où on vous garde vos enfants, on les occupe pendant ce temps-là. Vous pouvez aller dire ce que vous voulez, vous pouvez aller manifester comme vous le pouvez. Eh bien, c'est cette rue de la Marne, L'Allumette, que vous dire de plus? Ah oui, si, quand même, samedi 8 mars, donc à 15h30, place de la République, manifestation féministe. Attention à l'extrême droite qui parfois s'invite dans les manifestations féministes, comme avec le collectif Némésis, même si Némésis Sartre, c'est plutôt je crois que c'est en sommeil. En tout cas, on a vu un jour des autocollants, mais jamais véritablement d'action. Et le samedi 8 mars également, au Hangar Créalab, à 18h30, tiens, une conférence gesticulée faite par une certaine Suzy Q qui avait officié sur Radio Alpa, une conférence gesticulée sur le rock fait par des meufs. Ouais, pas du rock féminin, c'est pas spécifiquement féminin, mais c'est du rock fait par des femmes. Et ben voilà, si vous voulez vous renseigner sur tout ce qui se passe dans notre belle contrée, n'hésitez pas à aller voir sur sart.demosphère.net. sart.demosphère.net. Et en attendant, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.